Depuis qu'on ne traite plus les arbres, parce qu'ils étaient traités auparavant, on mettait des acaricides contre les petites araignées rouges, et depuis qu'on ne traite plus du tout, tout se passe bien. C'est pour le bien-être des arbres, ils respirent, ils transpirent, et puis c'est surtout pour le public qui se promène dans nos espaces de nature à Nancy.
Bonjour à tous. Depuis le 1er janvier de cette année, c'est la loi. L'État, les municipalités et les établissements publics n'ont plus le droit d'utiliser de produits chimiques dans leurs espaces. Fini les herbicides, les fongicides, les pesticides sur les trottoirs, dans les parcs, dans les cimetières ou sur les terrains de sport. C'est l'un des aspects de la loi dite de transition énergétique, adoptée en 2015. Cette même loi qui prévoit que cette interdiction sera élargie aux particuliers le 1er janvier 2019. Pour la majorité des 36 000 communes de France, se priver totalement de ces désherbants ou insecticides a tourné au véritable casse-tête. Car supprimer un outil, c'est une chose, en trouver un pour le remplacer, c'en est une autre. Dans ce domaine, une ville peut donner l'exemple, c'est Nancy. Il y a 12 ans que la deuxième agglomération la plus peuplée de Lorraine a décidé de bannir les produits phytosanitaires de ses parcs et jardins, et cela sous l'impulsion de professionnels particulièrement sensibles à la qualité de l'environnement et aussi à la santé des administrés. Ma ville sans pesticides, l'école de Nancy, c'est un reportage de Laurent Vatrin et Yves Lehors, un reportage sous les frondaisons, puisqu'il a été tourné au début de l'été pendant le festival Embranchement.
Interception, le magazine de la rédaction.
À la sortie de la gare de Nancy, quelques arbres serrés dans le béton ou dans des bacs. La place Thiers, très minérale, nous saute aux yeux avec sa tour édifiée dans les années 70. Et cette place de la gare, rénovée récemment, nous rappelle que la ville de Nancy, comme beaucoup dans l'est de la France, est marquée par une architecture où la végétation s'exprime plus facilement dans des parcs fermés. On va se diriger vers le parc de la Pépinière, au cœur de la ville, de l'historique, qui est un peu le poumon vert de cette ville de Nancy. Comment vous la trouvez, cette place Thiers, cette place de la gare?
Un peu trop minérale à mon goût. Voilà, ça manque de verdure. Ouais. Après, il faut laisser la végétation venir aussi, mais...
Elle n'a pas beaucoup d'espace, quoi.
Un, il n'y a pas beaucoup d'espace. Dans son environnement, on ne fera pas grand-chose contre ça.
Ça, c'est la fameuse tour Thiers.
C'est la fameuse tour Thiers, oui. Qui, pour le coup, pour moi, de figure... surtout quand on a mémoire de ce qu'il y avait avant.
C'est-à-dire ?
À cette place. Un peu l'équivalent de l'Excelsior, un bâtiment de ce type-là. Ouais. Hein, donc, il faisait une place nettement plus... en tout cas, c'est la place de mon adolescence.
Et quand vous étiez adolescent, il y avait plus de verdure ici ?
Je me souviens de cette... Oui, il y avait quelques arbres autour de la statue de Thiers, qui était ici, au milieu. Ouais. Et il y avait des arbres, oui.
Et pourtant, au service des parcs et jardins à Nancy, on va vous dire, mais il y a beaucoup d'hectares de verdure.
C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Il y a des parcs magnifiques à Nancy. Bon, il faut les trouver. Quand on est à l'intérieur des parcs, on oublie la ville. C'est vrai aussi. En même temps, sur le reste de la ville, c'est quand même très limite.
Vous saviez que la ville de Nancy travaillait sans pesticides pour ses végétaux depuis déjà très longtemps ?
Alors ça, non, je ne le savais pas, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et je crois qu'il y a une culture botanique intéressante quand même à Nancy. Oui. Hein, je pense que le jardin botanique, le parc Sainte-Marie, enfin, il y a une culture botanique pour moi qui est très intéressante à Nancy.
Voilà la place Stanislas et ses pavés. Complètement rénové en 2005. Là, il n'y a vraiment pas de végétation. Il va falloir aller pas dans le parc, donc parc de la Pépinière juste derrière. Bonjour Stéphane Arter.
Bonjour Laurent.
Alors, vous êtes un des responsables des parcs et jardins de la ville de Nancy. Où est-ce qu'on est là ?
Je dirais qu'on est près d'un superbe érable déjà, un érable pourpre. Et on est à quelques dizaines de mètres du kiosque à musique du parc de la Pépinière. Pourquoi la Pépinière ? Parce que c'était une pépinière royale ici.
J'ai envie qu'on s'approche un tout petit peu de l'érable. moi, quand je me promène dans les parcs ou quand je vais faire mon footing, j'aime bien m'approcher des arbres et caresser le tronc comme ça.
Il y a quelque chose qui est assez intéressant à faire. On l'avait fait sur les platanes qui sont à quelques centaines de mètres de nous et qui, au printemps, il y a la circulation, la sève, on sent des différences de température. Et vous le sentez quand vous touchez l'arbre. Ce n'est pas seulement le côté sensuel, mais on sent vraiment une vie à l'intérieur de l'arbre. Et là, on se dit qu'un arbre, c'est un être vivant. C'est quelque chose, une notion qu'on fait passer au public. Tout d'un coup, le public s'aperçoit de plusieurs choses. Déjà, la circulation, quand vous touchez un arbre, vous la sentez, la circulation de la sève. Et puis, on a aussi le concept de finitude d'un arbre. Quand on parle d'être vivant, il y a une naissance, il y a une vie et il y a une mort. Alors, potentiellement, l'arbre est immortel. Il a la capacité de se régénérer. Mais il est de temps en temps soumis à des pressions, à des maladies. Des champignons peuvent l'attaquer. Et donc, on doit parler à un moment donné de finitude d'un arbre. Il est de temps en temps attaqué par des maladies, mais on a des surveillances permanentes, des bulletins de santé des arbres. Notamment pour notre hêtre pourpre, que vous verrez forcément dans le parc, et qui est un arbre majestueux, mais qui est attaqué par deux champignons, l'inivore qui mange le bois, qui le ronge, parce que quelquefois la maladie n'est pas visible de l'extérieur. Donc on ne voit rien. Par contre, à l'intérieur, les champignons font leur travail de destruction, donc il faut aller radiographier l'arbre. Et quand il est malade, il a une capacité de réaction, il va par exemple fructifier, c'est-à-dire qu'il sent qu'il est en fin de vie, et l'instinct de survie, de reproduction, existe chez les arbres, donc il va fructifier beaucoup plus.
Là, on va vous dire, mais pourquoi on ne remettrait pas un petit coup de pesticide ?
Bah, ce serait pire.
Ce serait pire.
Ah, ce serait pire. Alors, parce que le produit phyto tuait la vie microbienne de façon indistincte, souvent. Hein. Alors, on nous disait, oui, il y a des produits phyto qui sont ciblés, mais on savait très bien que ça tuait la vie souterraine. Quand on voit dans le parc ici que tous les vers de terre sont revenus en masse, parce qu'il y a un volume de vers de terre au mètre carré, c'est fantastique, quoi.
C'est énorme. Signe de bonne santé.
Ah ben oui, parce que les vers de terre, ils travaillent H24. Et ils travaillent à aérer le sol, à le rendre fertile. Et ça, l'arbre, il adore. Hein. Je pense qu'il est très ami avec les vers de terre.
On entend les...
Ah, les pans.
Les pans du zoo de la pépinière.
Voilà, on a un espace animalier, et donc on entend les pans régulièrement, ouais. Qui signalent leur présence. Ouais.
Alors, les services des parcs et jardins de la ville de Nancy travaillent depuis plus de 10 ans maintenant, sans pesticides. Zéro pesticide, ça vous est venu comment ?
Le zéro pesticide, on a très tôt pris conscience à Nancy que le fait de travailler de la façon la plus écologique possible... On était précurseurs. On est quelques villes en France à avoir été précurseurs dans ce domaine. On a voulu mettre en adéquation en fait, ce que l'on pratiquait dans nos espaces publics et puis ce que l'on pouvait transmettre au public. Il était inconcevable de dire qu'on allait pousser le public à travailler dans son jardin de façon propre, entre guillemets, de façon écologique, sans être exemplaire. Alors évidemment, ça change les pratiques. On a beaucoup plus d'heures de travail. Ça, il faut vraiment le savoir. Parce qu'on a souvent l'idée de les jardiniers qui pratiquent le jardinage écologique ne font plus rien, laissent faire. En fait, c'est beaucoup de travail supplémentaire. L'arrêt du glyphosate, par exemple, fait qu'on est obligé de travailler à la binette.
Ça veut dire qu'il y a plus d'équipes qui travaillent aujourd'hui sur le terrain, dans les parcs et jardins ? Ça coûte plus cher ?
Oui, ça coûte plus cher. Le passage s'est fait en réorganisant le travail. Il faut savoir que quand on réorganise, et c'est un vrai travail ça, on réorganise bien les équipes, on peut dégager du temps pour respecter ces engagements écologiques. Beaucoup de villes aujourd'hui se posent la question, avec la loi qui impose maintenant le zéro pesticide, de comment faire. Alors ça a été un travail à long terme pour réorganiser, pour dégager du temps que l'on passait à certaines tâches, pour les réorienter, les réaffecter à cet entretien écologique. Et c'est ça le secret, l'organisation. À court terme, c'est beaucoup plus difficile que, par exemple, utiliser des pesticides en termes d'organisation. Mais je pense qu'à long terme, on sera de toute façon gagnant en termes de santé. On a bien compris ça, la relation entre nature en ville et santé, c'est simplement une révolution des mœurs. Hein. On voit bien dans ce débat sur les phytos Il y a encore des pressions, il y a encore des personnes qui nous croisent et qui nous disent « c'était mieux avant, c'était plus propre ». La propreté, la notion de propreté.
L'apparence.
L'apparence. Oui. Et cette notion de propreté, il faut qu'elle évolue dans les têtes pour avoir un nouvel esthétique. Et ça, ça prendra encore un peu de temps. Mais à long terme, on sera gagnant, même d'un point de vue économique.
Au cœur du parc de la Pépinière, il y a eu un imprévu, il y a peu de temps. Le hêtre pourpre, qui est un arbre très très ancien, on va en parler dans un instant avec Pierre Didier Jean, le directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy, a eu un gros accident. Il est très très malade, il est devenu dangereux pour le public et du coup, il faut sécuriser le périmètre. On ne peut plus trop s'approcher de lui. Exceptionnellement, nous, on va avoir le droit de s'approcher de ce hêtre pourpre qui est un arbre majestueux et remarquable. Bonjour Pierre Dijéjean.
Bonjour Laurent.
Alors on va aller rendre visite à ce vieil ancêtre.
Oui.
Cet être vivant qui est très très malade malheureusement.
Oui, c'est bien regrettable. On le suit depuis 1996. On utilise donc un tomographe. C'est le scanner de l'arbre. Les capteurs à ondes sonores sont installés autour du tronc de l'arbre. Et sur l'ordinateur, on a une cartographie du tronc de l'arbre. C'est comme si on l'avait coupé. Les parties brunes, c'est du bois sain. Les parties qui sont de couleur rose et bleue, du bois plus ou moins altéré. Et aujourd'hui, cet arbre, tout le cœur est atteint de deux champignons lignivores, donc des champignons qui rongent le bois. Donc nous, on fait tout pour le protéger, le sauvegarder le plus longtemps possible, parce que c'est un arbre remarquable. Il a été labellisé arbre remarquable de France.
On ne va pas le couper, cet arbre, ce hêtre pourpre.
Ah non, je ne souhaite pas le couper. Ce hêtre pourpre, il a vu passer des générations. Il est le témoin, c'est l'héritage du passé et on doit absolument le conserver. Il a 140 ans, cet arbre-là. C'est un vieillard aujourd'hui.
Pierre Didier-Jean, vous qui êtes directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy, on parle aujourd'hui du travail sans pesticides des parcs et jardins et des végétations urbaines. Travailler sans pesticides, ça veut dire s'interroger aussi beaucoup maintenant en amont sur quelles espèces on va mettre à quel endroit dans l'architecture urbaine.
Oui, alors surtout, il faut expérimenter. Et sans pesticides, à Nancy, c'est depuis déjà 2000 dans nos serres municipales où on a installé une protection biologique intégrée.
Et puis ça veut dire quoi, ça?
C'est-à-dire qu'on n'a aucun produit phytopharmaceutique et on va acheter dans des laboratoires des auxiliaires. Donc tout le monde connaît la coccinelle qui va se nourrir d'autres insectes ravageurs. Et puis dans les parcs, donc c'était notre souhait aussi, mon souhait qu'il n'y ait plus du tout de produits phytopharmaceutiques. Moi qui viens de la nature, je suis vosgien, j'avais un grand-père qui adorait les arbres, qui plantait énormément d'arbres, et il n'y avait pas besoin de traiter les arbres, ils sont suffisamment forts pour justement trouver leur équilibre à eux. Et depuis qu'on ne traite plus les arbres, parce qu'ils étaient traités auparavant, on mettait des acaricides contre les petites araignées rouges, et depuis qu'on ne traite plus du tout, tout se passe bien. Donc on fait le appel par exemple pour le Cameraria auridella qui est une maladie sur le marronnier. On a des pièges à phéromones, donc avec des hormones sexuelles où on va attirer les mâles qui vont être emprisonnés dans ces petites cages. Mais aujourd'hui voilà, plus du tout de produits et c'est pour le bien-être des arbres, ils respirent, ils transpirent et puis c'est surtout pour le public qui se promène dans nos espaces de nature à Nancy.
Alors, quelles espèces, justement, on cultive ici, dans les parcs et jardins? Comment on organise les choses?
Il y a le respect de l'histoire. C'est en fonction du site où on est, il y a toujours ce respect de l'histoire. Quelles essences d'arbres étaient présentes, par exemple, au parc de la Pépinière? Alors, mais bien sûr, le climat change. Donc, il y a des végétaux qui vont moins bien s'adapter. Donc, on doit expérimenter. Et surtout, c'est pas lancer des grandes plantations avec des grands alignements, avec des quantités très importantes, parce qu'après, si une maladie ou un insecte ravageur venait, on va décimer une partie. Alors à Nancy, notre particularité, je dirais que c'est peut-être parce qu'on a des antécédents, l'école de foresterie est née à Nancy sous Charles X. Et alors, très très attentif au climat, au sol, quelles essences se plaisent ou pas, et puis... C'est travailler aussi avec des professionnels, des pépiniéristes, qui vont nous donner des végétaux et on va les expérimenter dans nos espaces de nature.
Est-ce que les citoyens sont conscients de tout ça? Parce qu'on croit souvent des gens qui ne sont même pas au courant que depuis 10 ans déjà, la ville n'utilise plus de produits pesticides.
Alors la pédagogie est importante, donc vous verrez, il y a des petits panneaux qui fleurissent dans nos espaces de nature, des petits panneaux métalliques justement, parce que nous sommes très soucieux du développement durable, où on a imprimé sur ces panneaux zéro produit phytopharmaceutique, zéro produit chimique. On met aussi le mot chimique dans nos espaces de nature depuis 2005. Et ça, c'est essentiel.
Merci Pierre.
Merci à vous.
Zéro phyto, depuis 2005, aucun traitement chimique n'est utilisé dans nos espaces de nature. La ville de Nancy s'engage au quotidien pour votre santé et un développement durable.
Est-ce que ça vous parle ?
Oui et non. Pour le machin traitement, il n'y a aucun produit chimique. Bon, c'est bon pour la nature, tout ça. Hein, pour les eaux, les rivières, hein, le traitement, tout ça.
Ça vous incite aussi à arrêter d'utiliser des pesticides, vous ?
On n'utilise pas. Hein. Je ne suis pas un pollueur, je ne fume pas, tout ça. Donc déjà, les mégots, il n'y a pas de mégots par terre. Voilà.
Alors dans les parcs et jardins de la ville de Nancy, aujourd'hui, on rencontre des élagueurs. Pardon, non, on les appelle maintenant arboristes grimpeurs, car le métier a beaucoup évolué ces dernières années. On ne coupe plus les arbres comme avant.
Vous annoncez, hein ? N'oubliez pas d'annoncer, t'as fini ton travail, là ? T'as fini ? Ok.
Ils sont en train de faire quoi, là ?
On est en train de faire une sécurisation d'une allée du parc de la Pépinière. Taille de bois mort pour réduire les risques de branches cassées qui pourraient tomber sur le public.
Alors, un arboriste grimpeur, David Villemar, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement là pour couper l'arbre, puisque par définition, il a une connaissance de l'arbre et de la végétation.
Oui, tout à fait. Et parfois même, c'est une lecture de l'arbre afin de faire une non-intervention. Faire un diagnostic, faire une analyse, et parfois, ce n'est pas nécessaire de tailler.
C'est-à-dire, vous arrivez au pied d'un arbre, on vous avait dit, a priori, là, il va falloir élaguer, et l'arboriste grimpeur, il monte un peu, il s'aperçoit que, ben non, je bouge pas, je fais rien.
Du sol, souvent, les questions qu'on pose, c'est au public, aux particuliers, c'est pour quelle raison vous voulez tailler l'arbre. Et effectivement, par rapport à... Il y a toujours cette tendance et cette culture qui reste sur la taille hivernale, on taille que les arbres qu'en hiver, ça fait du bien de tailler un arbre, mais en fin de compte, un arbre n'a pas besoin d'être taillé, on le taille parce qu'il y a des contraintes environnementales. Sinon, il se développe sans nous, il n'y a pas besoin de nous. Et justement, le rôle de l'arboriste grimpeur aujourd'hui, c'est de dire ça on peut le faire dans le respect de la biologie de l'arbre, ou ça on ne peut pas le faire, parce que ça va avoir des conséquences, même sécuritaires. Une taille trop forte, on va dire les tailles radicales qu'on doit supprimer, sont très néfastes pour l'arbre, mais sont aussi néfastes pour l'environnement, le mobilier et les gens. Tu peux pas le point d'ancrage, ça a été bon ?
Okay. Là, c'est bon, j'avais un seul coup de temps, mais c'est pas en 6 en 2. J'en ai mis un de chaque côté, je pouvais jouer.
D'accord.
Nous en suis mis un de chaque côté de l'arbre.
Ah, on a continué notre promenade sous les arbres du parc de la Pépinière et puis on croise Maxime Cataneo. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Qui êtes-vous ?
Je suis un jardinier au loisir de la ville de Nancy. Je fais partie de l'équipe des parcs et jardins, non ? Je travaille sur tous les espaces de nature de cette belle ville.
Vous êtes au cœur de cette problématique et de la surveillance du label Zéro Phyto, on peut dire ça comme ça ?
La ville de Nancy est inscrite dans le label Écojardin. Peut-être que vous avez entendu parler de ce label. Donc c'est un label comme le label Agriculture Biologique, on va dire, qui va labelliser simplement les espaces publics, les parcs et les jardins d'une ville. Et il prend en compte en partie, par exemple, l'usage ou non des produits phytosanitaires. Donc mon travail, ça va être surtout de faire passer auprès des équipes les
bonnes pratiques.
Les bonnes pratiques de jardinage pour l'obtention de ce label.
Alors, ça découle directement, votre travail, des directives européennes, de la législation nationale qui a été un petit peu accélérée ces dernières années. Alors, évidemment, à chaque fois que les lobbies phytosanitaires ou les lobbies du pesticide reviennent à la charge, notamment au niveau de la Commission européenne, vous êtes là, vous commencez à rougir, non ?
Un petit peu, mais bon, ça... Faut toujours, de toute façon, oui, faut relancer auprès des équipes, leur dire, oui, mais non, faut rejustifier à chaque fois... le fait que les produits phytosanitaires sont, même dans la définition, hein, c'est un poison, hein, c'est des biocides, donc ils tuent ce qui est vivant. Donc c'est une fois qu'on a compris l'étymologie de tous les mots en cides, pesticides, biocides, fongicides, etc., c'est pas bon pour la nature, c'est pas bon pour les plantes, c'est pas bon même pour les arbres qui sont au-dessus des adventices qu'on veut illuminer. Donc c'est pas bon pour même la vie du sol, ne serait-ce que la vie du sol. On a oublié la vie du sol, on détruit toute la vie du sol avec les produits qu'on met sur la terre, sur le sol, dans le gazon, et c'est cette vie du sol qui fertilise, en fait, puisque c'est tous ces micro-organismes, cette activité dans le sol qu'on ne voit pas, sur laquelle on marche, cette activité qu'on piétine, qui est importante pour les plantes, parce que les plantes se nourrissent de l'humus, mais l'humus est fabriqué par, en partie, les animaux.
C'est pas bien pour nous non plus, et les pesticides.
Voilà, du coup. Surtout, pour nous, c'est pas bien. Pour celui, le jardinier qui va pulvériser ses produits, c'est pas bon. Même s'il y a des EPI, etc., on sait que ça passe toujours. Hein. Il y a une infime partie qui va rester. Le produit est actif sur une certaine durée de temps, donc c'est dangereux aussi pour les usagers qui vont passer. Le produit reste actif quand même une certaine durée.
C'est vrai que parfois, à la maison aussi, chez soi, on continue à utiliser
les produits phyto, ne serait-ce que pour désherber l'allée. Même si on n'en met plus dans le potager, on va désherber l'allée en gravier avec un peu du produit phytosanitaire.
Pour faire propre.
Pour faire propre, voilà ce fameux terme, faire propre, qui devrait être banni du langage du jardinier. Ça a été dur à faire passer auprès des jardiniers, parce que c'est toute une remise en cause de pratiques qui ont été enseignées pendant des dizaines d'années.
Puis Maxime Catano, vous êtes tout jeune. Alors des fois rencontrer un vieux jardinier,
voilà,
hein, et lui réapprendre son métier, ça doit coincer un peu, non ?
Un petit peu. Ouais. Mais oui, dans l'ensemble, c'est surtout on prend pour un rigolo parce que d'une part je suis jeune et en plus alors, je viens de bouleverser les pratiques. Voilà.
Et qu'est-ce qu'il vient de me raconter, voilà, me réapprendre la vie ? Non mais je connais mon métier.
Il est bien gentil ce petit jeune. Mais...
Merci Maxime.
Merci.
Derrière cette haie de charmilles, un jardinier pilote un drôle de chariot à roulettes sur lequel on aperçoit une grosse bonbonne et un long tuyau qui crache du feu. C'est l'un des nouveaux outils qui remplace l'utilisation des produits chimiques.
Le brûleur, c'est mieux que la binette.
Le brûleur, ça évite d'abîmer le sol. Là, comme le sol est quand même relativement régulier, si on utilise une binette, on va creuser le sol et on va le détériorer. Donc la flamme préserve le sol.
Ça sent un peu comme les herbes sur le barbecue, là.
Un peu, effectivement. Il y a des résineux dans le coin, donc les résidus, les épines font que le sol est aromatique, on va dire.
C'est ça. Vous pouvez nous parler un peu de votre équipement, là ?
C'est un équipement moderne, là ça fait 2-3 ans que ça existe, on l'a au niveau du parc depuis un an. Il a l'avantage d'être économique en temps et en combustible. La plante, le fait d'être brassée avec un air à, on va dire, au-dessus de 60 degrés, va faire comme un espèce de coup de soleil, elle va se réparer, elle va essayer de se réparer et à force de passage on finit par l'épuiser. Dans le pire des cas. Autrement, si c'est une plantule, une jeune plante, elle va être immédiatement tuée et elle disparaîtra. Là, on en est content. Ça fait gagner du temps parce que, de toute façon, l'alternative idéale, c'était quand même le désherbant chimique. Mais comme ça a été mal utilisé à une époque, on nous l'a globalement interdit.
Et puis là, c'est fini.
Ah ben là, c'est fini complètement et c'est aussi bien parce que les amateurs utilisaient ça de telle manière que pour rendre le produit plus efficace, ils en rajoutaient toujours un bouchon. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas que physiologiquement, la plante n'absorbait pas un surplus de produits. Il y en a qui ont voulu jouer aux apprentis sorciers, et on s'en mord les doigts, c'était collectivement, quoi.
Le changement de pratique, ça a été un peu la révolution ?
Non. Moi, à mon niveau, ça m'a paru assez logique. Mais bon, c'est le genre d'engin qu'on ne peut pas confier à tout le monde parce que, effectivement, des fois, on a des gros déconvenus du style des débuts de feu. Hein. Entre autres, des incendies au niveau des bambous où ça, c'est des bombes à retardement, hein, vu que la feuille est sèche et que le bois est creux, donc on a des compressions de gaz et on peut avoir des feux très rapidement incontrôlables. J'ai eu le coup aux os, j'avais quelques secondes, mais j'ai toujours une bouteille sur moi au cas où. Normalement, il est fourni, l'appareil est fourni avec un extincteur. Donc,
mais là, il n'y a pas l'extincteur.
Non, mais le bonhomme vaut bien un extincteur, je pense.
Vous êtes maire de la ville et vice-président de la métropole du Grand Nancy. Est-ce qu'on peut faire mieux avec les moyens dans lesquels on est aujourd'hui pour assurer le respect de la nature ?
D'abord, je pense qu'il faut aménager la place de la nature dans la ville, justement pour tenir compte de ce type de contraintes. Je vais prendre deux exemples pour être concret. Le fait de sensibiliser nos concitoyens à ce dont a besoin un arbre pour bien vivre. Ça veut dire qu'on leur apprend à pas vouloir en poser partout, je dirais presque n'importe où, là où il n'y a pas assez de profondeur, là où il n'y a pas assez de terre, là où l'arbre ne pourra pas finalement grandir et vivre longtemps. Le fait d'expliquer qu'on veut planter un quartier comme par exemple les rives de Meurthe avec de nombreux arbres, ça amène ensuite les urbanistes aussi à travailler différemment. Moins d'asphalte, moins de surface couverte, plus de terre à l'air libre. Et l'eau de pluie naturellement va dans la nappe et alimente la végétation. Ça veut dire aussi que visuellement, par exemple, dans ces quartiers, il y a de la mauvaise herbe partout. Enfin, en tout cas, on plante de la végétation qui fait que l'herbe, on ne la pourchasse pas entre deux pavés ou entre deux corniches de trottoir,
mais qu'elle fait partie du paysage. Les jardiniers, Laurent Hénard, disent qu'il n'y a pas de mauvaise herbe, il y a des herbes folles éventuellement.
Mais en fait, d'ailleurs, on utilise des herbes folles, mais qui sont choisies. Chez Metoff, qui est l'architecte urbaniste au conseil, a fait un travail sur les espèces végétales lorraines, plus aussi bien sûr des espèces végétales qui n'étant pas typiques de la Lorraine, s'acclimatent facilement à notre région. Et c'est vrai que l'idée est d'avoir ces herbes folles, comme vous dites, mais qui font complètement partie maintenant du paysage urbain. C'était un des défis du zéro phyto. Parce que quand vous faites zéro phyto, quelle est la conséquence ? Elle est très bonne pour la nappe phréatique, elle est très bonne pour notre cadre de vie, elle est très bonne pour la nature. Sauf qu'il y a des choses qui changent dans le cadre de vie des gens. Les pieds d'arbres, par exemple, deviennent couverts d'herbes folles. Les herbes poussent entre le mur de la maison et le trottoir, entre la corniche du trottoir et la rue. Donc il faut s'habituer à ça, s'habituer au fait que de temps en temps, bien sûr, quelqu'un les arrache ou les brûle. Mais que c'est pas pour autant, comme avant, une ville complètement lisse où il n'y aurait pas le moindre brin d'herbe. C'est même l'inverse. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est le travail éducatif, en fait, qu'il y a à faire. Zéro phyto, sur le papier, c'est facile. Il suffit de prendre une décision et puis on trouve une autre façon de réguler. Mais c'est aussi compliqué pour les citoyens, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il faut qu'ils se comportent autrement. La nature ne devient plus un objet, finalement, qui a sa place très délimitée dans la ville. La nature, elle est vraiment partout en ville. Et c'est pas si évident que ça pour beaucoup d'habitants à intégrer.
Engagement du service des parcs et jardins de la ville de Nancy, il y a la pédagogie. Hein. Et la pédagogie, ça passe par des informations comme ces petits panneaux qui sont notamment dans ce jardin Dominique-Alexandre Gaudron. Je vous en lis un, là, un petit panneau. Combat de buis. Depuis quelques années, comme ailleurs en Europe, le buis souffre dans le jardin Dominique-Alexandre Gaudron, attaqué par Cylindrocladium buxifolia, une maladie cryptogamique. Il lutte mais dépérit par endroits. Nous suivons l'évolution du mal avec l'aide de scientifiques et tentons des remèdes en respectant notre politique zéro phyto. Des phytostimulants naturels, un arrosage ciblé ou une taille plus forte sont censés tonifier sa résistance. Des tests de végétaux de remplacement sont aussi pratiqués dans le cas où la maladie l'emporterait. Et nous n'en sommes pas là. Voilà comment se termine ce petit panneau pédagogique sur le buis. On va retrouver dans ce jardin Mathieu Husson, qui est conseil en architecture, urbanisme et environnement. Il fait partie de cette association départementale qui aide aussi les collectivités locales à faire mieux, sans pesticides, pour préserver la végétation dans les communes, dans le cadre de la loi. Bonjour Mathieu Husson.
Bonjour.
Alors Mathieu Husson, vous qui êtes conseil en environnement, vous rencontrez régulièrement des élus locaux, des jardiniers, oui, des services techniques. Qu'est-ce qu'ils vous disent en général?
Alors j'ai ceux qui ont un petit peu un sentiment de rejet de cette loi qui arrive et qui les embête. Et puis il y a ceux qui veulent faire des efforts, qui ont un petit peu du mal de savoir comment s'y prendre. Donc et du coup, on a notre rôle pour essayer de les rediriger.
C'est les mentalités qu'il faut faire évoluer alors?
Voilà, oui, c'est mentalité, c'est le réflexe « je dois désherber ». Ça c'est, et quel produit remplace quel produit, ça faut arrêter ces réflexes-là. C'est comment je dois faire pour ne plus avoir à désherber. Et comme on a parlé des cimetières, est-ce qu'on ne peut pas simplement les enherber?
C'est-à-dire laisser de l'herbe pousser.
Voilà,
un
laisser
peu
l'herbe, voire éventuellement la semer si on veut, mm-hmm, et tondre plutôt que de désherber. Il faut quand même un petit peu d'esthétique, c'est pour ça que je préfère un gazon dans le cimetière. Et puis après, bah, y a celles qui fleurissent, hein. On a des mauvaises herbes, on les appelle comme ça, déjà à tort, qui ont des très belles floraisons, comme les coquelicots, hein, tout simplement, donc qui peuvent être, on a vite toléré quand ils sont en floraison, et puis simplement tondus par la suite.
Quels outils pédagogiques on peut utiliser dans les collectivités locales, dans les communes, dans les villages, pour aider justement à faire évoluer les mentalités?
Moi, le plus simple, c'est des conférences dans lesquelles je vais montrer des choses qui se sont faites dans le village d'à côté. L'idée, c'est d'avoir des exemples proches. Ça ne sert à rien que je prenne un exemple de l'autre bout de la France. Et du coup, bah, les maires se connaissent aussi. Hein. Donc, quand ils ont vu que dans un village, on a enherbé le cimetière, on a fait telle ou telle solution. Et puis la ville de Nancy, hein, qui fait des belles choses et qui sert aussi souvent d'exemple. Donc, les grands montrent aux autres.
Rappelez-nous où nous sommes.
Donc on est dans le jardin Gaudron, donc l'ancien jardin botanique de la ville de Nancy. Bah on a quand même déjà des beaux exemplaires de plantes et aussi bah des soucis, notamment sur les buis.
Mais un partisan des pesticides qui vous dirait « Mais si, les buis, il faut les traiter, ça va s'arranger », qu'est-ce que vous lui répondez?
Bah c'est justement que sur ces maladies-là qui sont relativement nouvelles, on n'a pas les produits qui correspondent. Donc même le produit chimique, là, on est bien en difficulté. Et on a de plus en plus de maladies nouvelles. Et c'est à la nature un petit peu à s'auto-réguler, hein, comme elle le fait. Malheureusement, la mondialisation lui accélère le pas. La disparition d'espèces, hein, c'est naturel. Sauf qu'on va mille fois plus vite que ce qu'on devrait. Et là, c'est quand même inquiétant, en termes de biodiversité.
D'où l'intérêt, Mathieu Husson, de préserver aussi au maximum la fertilité du sol, sa vie, oui, naturelle, voilà, et de ne pas mettre les pesticides.
On recommence par le sol. Dans le sol, il y a une biodiversité qui est bien plus importante que ce qu'on voit dans l'air. Par contre, c'est des micro-organismes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors on connaît le ver de terre, hein, lui c'est assez simple, on le connaît, mais après il y a des bactéries, il y a des tas de choses. Et c'est eux qui vont faire un écosystème sol de qualité, qui vont être le garant d'une bonne santé des plantes. C'est comme nous, quand on est fatigué, bah, c'est là qu'on va attraper plus facilement la grippe. Donc il vaut mieux être en forme pour pouvoir déjà commencer par ne pas être malade, la première chose. Donc c'est le sol, tous les micro-organismes du sol détestent les produits chimiques. Donc c'est là qu'on commence à faire beaucoup de dégâts. Quand on veut protéger une plante avec un produit, on ne sait pas toutes les conséquences qu'on a en souterrain.
au détour du jardin Gaudron et de la rue Sainte-Catherine, croisons une membre bénévole et active de la société d'horticulture, Francine, ancienne infirmière.
Bon, le zéro phyto, oui, m'intéresse beaucoup. Moi, je veux dire qu'il faut être le plus proche de la nature, parce que fatalement, elle se branche quelque part. Il y a des retours de bâton. Mais je me méfie aussi beaucoup des tartes à la crème qu'on nous sort maintenant. Bon, il faut, j'allais dire, on a peut-être fait du n'importe quoi à une époque, parce que c'était dans l'air du temps, les champs tout propres, etc. Bon, plus c'était nickel, plus c'était clean, il ne fallait pas qu'il y ait un poil d'herbe qui dépasse. Bon, maintenant, on accepte qu'il y ait dans les champs, qu'il n'y ait plus. Dimanche dernier, j'étais avec la société d'horticulture, Monsieur Husson nous a montré la permaculture. J'avais fait visiter quelqu'un de ma famille avec des gens qui en font. Ah là là, l'horreur de chez l'horreur. Ah non, c'est pas propre, c'est pas net, etc. Il faut que ça soit net, etc., tiré au cours d'eau. Bon, ben voilà, hein, je crois que ça fait partie des mentalités à changer. Mais à changer, ça va être plusieurs générations, à mon sens. Parce que je vois bien les gens de ma génération, déjà. Moi, je suis en 44. Hein, donc, moi, j'ai été élevée. L'industrie, qu'est-ce que c'était beau. Le progrès, c'était bien. Et il ne pouvait rien venir de mal du progrès.
Nous sommes chez un horticulteur. Travailler sans pesticides, c'est aussi travailler sans pesticides à la source, à la production et à la commercialisation des plantes potagères notamment et des plantes d'ornement. Donc Jean-Paul Delacour va nous dire un petit peu comment il travaille ses productions et comment il conseille ses clients. Bonjour.
Bonjour.
Vous
bonjour.
Ça fait, je vous ai vu arriver, je viens d'aller le chercher.
Ouais, on va à sa rencontre.
Salut, bonjour. Je suis très, très remonté actuellement sur la campagne de dénigrement qui est faite sur le désherbage et essentiellement le Roundup. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui nous a permis de franchir un palier. Et quand je vois devant chez moi, si vous voulez, des employés municipaux à quatre pattes en train d'arracher de l'herbe, en sachant que dans trois semaines il y en aura autant, je dis... Quelque part, on est retourné au Moyen-Âge. Moi, je trouve que, si vous voulez, il y a peut-être un moyen terme. Nous, on est dans ce qu'on appelle une culture raisonnée. On a fait une démarche au niveau de l'entreprise avec une certification bio. Ça nous a pris 2 ans. Et c'était trop lourd à gérer, on a arrêté. En revanche, le grand bénéfice de cette certification bio a fait qu'on a un réflexe maintenant au niveau de l'entreprise. Le personnel a été formé. Il faut être, si vous voulez, essentiellement devant les maladies, devant les attaques d'insectes. Parce que quand ça se déclare vraiment, il n'y a plus vraiment de solution. Même en chimique, des fois, c'est très, très compliqué. Le grand bénéfice également du bio, ça, je tiens à être très honnête, c'est que toute une gamme de produits, en 10 ans, sont apparus sur le marché. Étaient-ils dans les tiroirs, dans les cartons, je n'en sais rien, mais aujourd'hui, ils sont à notre disposition, alors qu'avant, on ne l'avait pas. On était condamné à travailler avec du chimique ou avec rien. Alors que là, aujourd'hui, on a vraiment des alternatives. On a des biostimulants. Là, on traite avec des produits à base d'algues contre les pucerons. Et ça, c'est le grand bénéfice de l'engouement, du développement de cette activité bio. Alors, la ville de Nancy se targue et fait une grosse communication sur des zéro phyto. Mais il faut qu'il soit objectif. Les plantes qu'ils mettent dans les massifs, si on les met en vente dans mon point de vente, il n'y a aucun client qui va les acheter.
Pourquoi ?
Ben parce qu'il y a des pucerons dessus, parce qu'il y a plein d'insectes, parce que les plantes ont eu des défauts de maladies, de feuilles, de tout un tas de trucs. Quand on les met, si vous voulez, après en culture dans les massifs, elles retrouvent un état naturel, il y a un équilibre qui se passe, mais sorti des serres, c'est un peu rock'n'roll quand même. Hein.
Après, il faut peut-être de la pédagogie, alors, avec...
Ah oui, non, mais là on n'y arrivera pas. Final. Ah non, non, là, on n'y arrivera pas. Vendre la plante avec des pucerons, le client ne l'acceptera jamais.
Voici à l'ombre d'un NIF d'Irlande, dans ce jardin expérimental Dominique Alexandre Gaudreau. Alors ici, les jardiniers ont construit un mur d'insectes ou une cabane d'insectes, puisque ça ressemble à une petite façade de cabane. Et il y a de la brique avec du torchis, des rondins de bois coupés. Et on voit le travail des insectes, des petits morceaux de végétaux qui restent emprisonnés comme ça dans cette cabane. Et une petite plaquette nous indique l'utilité des insectes, ce qu'on appelle les insectes auxiliaires, premier maillon de la chaîne alimentaire, pollinisateurs, ce sont d'excellents bio-indicateurs de la qualité de l'environnement. Et ils sont les alliés du jardinier, ces insectes. Ils se trouvent de moins en moins d'endroits pour se réfugier et se reproduire. C'est pour ça que, par de simples aménagements, aujourd'hui, nous pouvons les aider à maintenir ou augmenter leur population, à ces insectes auxiliaires du jardin qui se porte bien. Alors Mathieu, si on vous fait de conseils en environnement et jardinier, hein, la loi dont on parle anti-pesticides qui s'applique pour les collectivités là, depuis le 1er janvier 2017, elle arrive. Pour les particuliers, là aussi, il y a un changement de mentalité chez le citoyen, dans le grand public à instaurer.
Oui, alors pour les particuliers, c'est 2019, le 1er janvier 2019, hein, donc c'est bientôt. Et oui, les particuliers, mais il y a quand même pas mal de personnes qui sont assez soucieuses, qui font un petit potager, qui font attention. Et puis il y a de plus en plus des produits naturels, mais sur lesquels moi je ne crois pas. Il vaut mieux que ça soit, encore une fois, l'écosystème sol qui soit en bonne santé. Le dernier recours, c'est le produit naturel, mais quand on est malade, il faut déjà essayer de ne pas être malade. On en revient toujours au départ. Et avec des systèmes maintenant comme, alors c'est des mots un peu scientifiques, la permaculture, où on ne travaille plus le sol, on met beaucoup de paillage, ces systèmes-là, on a quand même des résultats assez extraordinaires. Permaculture, ça vient d'agriculture, et permanente, c'est plutôt durable. C'est-à-dire qu'on se soucie de ce qu'on va redonner à nos enfants en se considérant comme des locataires de la terre. Je dois rendre la terre à mes enfants aussi bien que ce que j'ai eu, voire mieux, mais pas moins bien.
Dans ce jardin de Gaudreau, on fait de l'expérimentation. Ouais. L'expérimentation, elle est de plus en plus nécessaire.
Oui, puis notamment pour des personnes comme moi qui conseillent, il faut déjà s'assurer de ce qu'on dit. Donc ici, c'est un terrain d'expérimentation pour la ville. Moi, j'ai un jardin personnel aussi pour vérifier avant de parler. Parce que là, par contre, si vous donnez des solutions qui ne marchent pas, ça ne dure pas longtemps. Donc il faut être un peu sûr de son coup. Ici, la ville de Nancy fait pas mal d'essais de fleurissement, mais aussi de paillage, du travail expérimental sur le sol. Mais bon, je pense que la ville de Nancy a déjà passé le stade expérimental. Hein. Ils ont déjà paillé les rosiers à la pépinière avec du BRF, donc c'est du bois qui est broyé. On n'est plus dans cette solution où on vient buter, biner, désherber.
On ne touche même plus la terre, alors.
Alors moi, pour le moins possible, chez moi, j'arrive à ne plus faire du tout. Donc j'évite même de faire un trou pour repiquer une tomate, en simplement la plantant dans le paillage. Donc je pousse le vis jusqu'au bout, justement, dans ce souci d'expérimentation. L'idée, c'est de travailler le moins possible le sol. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez des champignons, c'est des filaments. Dès que vous mettez un coup de bêche, vous les coupez, vous les détruisez. Les champignons, c'est le début de la biodiversité, c'est eux qui régulent les limaces et qui vont s'associer aux plantes, c'est ce qu'on appelle les mycorhizes, donc pour mieux récupérer l'eau en ce moment quand il fait sec. Il y a de l'eau que les plantes n'arrivent pas à récupérer, n'ont pas la force, et c'est les champignons qui vont les aider. Donc voilà, tout un écosystème qui est riche, dont on ne connaît encore pas tout, hein, on en découvre. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est que je sais aujourd'hui que J'en découvrirai encore beaucoup. Plus j'en sais, plus je me rends compte que je sais rien. La nature, elle est tellement vaste, elle est tellement belle. Puis elle est tellement bien faite que on a beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'optimisme sur l'avenir.
C'était Ma ville sans pesticides, l'école de Nancy, un reportage de Laurent Vatrin de France Bleu Sud-Lorraine, prise de son Yves Lehors. Michel Soulier a réalisé cette émission, mixée par Lucas Vaillant. Un dernier mot et un appel en même temps aux auditeurs fidèles et attentifs que vous êtes. Le 3 décembre, l'espace d'interception sera consacré au prix du reportage des médias francophones. Et pour départager les reportages en compétition, nous avons besoin de vous. Si vous voulez participer à un jury qui déterminera le vainqueur 2017 de ce prix, vous pouvez vous rendre sur le site de France Inter, où vous trouverez le formulaire approprié pour vous inscrire. Vous avez jusqu'au 20 novembre pour le faire. À vos claviers. Je vous souhaite un excellent dimanche. L'esprit.